Le logement joue un rôle central contre l'aggravation de la pauvreté. Un certain nombre d'éléments de contexte politique ont de quoi nous alerter. Et c'est aussi ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui pour mettre en avant ou des faits d'actualité ou des éléments qui doivent nous inciter ensemble à partager le combat contre le mal logement.
Quels sont les indicateurs, les chiffres du mal logement, particulièrement dans les Hauts-de-France?
Quelques indicateurs qu'on pourrait retenir pour qualifier la situation du mal logement, c'est déjà de repérer qu'il y a près d'un quart des ménages de la région qui sont en situation de précarité énergétique. En France, c'est 20% et c'est un peu plus dans la région Hauts-de-France. Il y a plus de 150 000 ménages qui sont en attente d'un logement social depuis au moins un an. C'est aussi un indicateur de la difficulté à trouver un logement adapté. Il y a un autre indicateur, si je devais en choisir un troisième, qui est celui de 200 000 logements potentiellement indignes. Donc c'est un risque d'exposition pour les ménages qui les occupent à des problématiques de santé, de confort ou de dépenses trop élevées dans leur logement.
En ce qui concerne la précarité énergétique, les chiffres sont préoccupants. Un tiers des ménages à bas revenus, soit 6,7 millions de personnes, consacrent plus de 8% de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement. Et ils ne sont qu'une partie des 12 millions de victimes de la précarité énergétique qui souffrent du froid et du prix de l'énergie. À cela s'ajoute la hausse du prix du carburant, le coût du logement. À cela s'ajoute la baisse des APL, la désindexation des pensions de retraite, des prestations familiales, l'augmentation de la CSG qui touche particulièrement les retraités, les coupes dans le logement social.
Est-ce qu'il y a un seuil pour la précarité énergétique?
Le seuil, il est pratique, ça concerne toutes les personnes qui, en raison de la situation de leur logement ou de leurs ressources, n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. Donc ça peut à la fois concerner des personnes qui ont des factures élevées, ou dans d'autres cas, des personnes qui, pour ne pas dépenser trop, sont contraintes de se priver de chauffage et de réduire les dépenses.
Les chiffres qui ont été publiés dans ce nouveau rapport de la Fondation Abbé Pierre montrent en quelque sorte une augmentation de la précarité ou une accélération de la paupérisation, crise sociale dont l'actualité politique témoigne également.
Tout à fait. On a une actualité récente qui a mis en évidence les difficultés face au coût de l'énergie de beaucoup de ménages. On a entendu beaucoup les Gilets jaunes parler des coûts de l'énergie. C'est vrai pour ceux qui sont contraints d'habiter loin et consacrent une partie importante de leurs ressources pour le carburant et l'énergie dans leurs déplacements. Ça concerne aussi tous ceux qui sont dans un logement qui devient trop cher par rapport à leurs ressources. Et notamment, ce qu'on constate, c'est que pour les ménages les plus modestes, les dépenses de logement représentent plus de la moitié des ressources. Ça laisse d'autant moins de marge pour les autres dépenses et les dépenses non contraintes en particulier.
Vous notez aussi également dans l'introduction de ce rapport quelques indicateurs qui concernent spécifiquement le logement, c'est l'impunité des marchands de sommeil, également l'insuffisance dans la lutte contre l'habitat ou encore la baisse des APL.
Oui, on a été très choqués, comme beaucoup de personnes, de la catastrophe qui s'est déroulée à Marseille. Très choqués de constater que beaucoup des occupants de ces immeubles signalaient depuis longtemps les risques et les problématiques qu'ils pensaient avoir découvert. Et on s'est rendu compte qu'en dépit de ces signalements qui avaient duré plusieurs années, il n'y avait pas eu d'intervention de la part des propriétaires et dans ce territoire-là, de la part des autorités locales. Et c'est ce qui s'est traduit durement par le décès de 8 personnes. Donc on est évidemment très choqués de cette difficulté pour les mal logés de faire reconnaître leurs droits, les difficultés qu'ils vivent et que des mesures plus efficaces n'aient pas été prises par la ville de Marseille à ce moment-là pour prendre en charge les situations. Choqués aussi de constater, une fois que les ménages en situation de danger sont évacués de leur logement, qu'il y ait aussi peu de réponses adaptées pour répondre à leur quotidien, et qu'encore aujourd'hui, des centaines de personnes soient contraintes de vivre à l'hôtel sans avoir de visibilité sur les conditions de logement normales qu'elles vont pouvoir retrouver dans quel délai.
La nouveauté dans l'action des pouvoirs publics, c'est le plan logement d'abord, qui vise à fournir un logement en guise de prérogative à toute démarche de réinsertion sociale ou professionnelle, plutôt que de voir le logement comme un aboutissement. Est-ce que tu peux en dire plus ?
Le plan logement d'abord vise à apporter une réponse logement en préalable à la démarche d'accompagnement social. Ce qu'on a constaté, c'est que la multiplication des étapes dans les parcours d'hébergement, c'était autant de marches qui étaient parfois des situations de mise en échec des personnes qui étaient concernées et qui rallonger les parcours. Et beaucoup qui restent très longtemps dans des situations d'hébergement faute de solutions logement perdent parfois leur capacité d'autonomie ou leurs habitudes en matière de gestion domestique, par exemple. Et donc, à l'instar de ce qui s'est pratiqué dans d'autres pays, hein, c'est des démarches, des réflexions qui ont démarré dans l'État de New York, qui ont démarré au Québec, qui ensuite ont été mises en place, par exemple, dans un pays comme la Finlande. La première réponse à ceux qui n'ont pas de domicile, c'était donc d'apporter un domicile et ensuite, le cas échéant, selon les besoins et les situations des personnes, de poursuivre un accompagnement. Et en faisant ça, on a mesuré que les chances de se maintenir dans le logement étaient beaucoup plus grandes. On a mesuré que les besoins en accompagnement diminuaient. Et que finalement, cette nouvelle façon de répondre au domicile à quelqu'un qui n'a pas de domicile s'avérait plus efficace en quelque sorte et du coup parfois même moins onéreuse pour l'État. Et donc on a en France obtenu l'engagement de ce plan logement d'abord qui a été lancé par le gouvernement il y a environ un an et demi.
Donc on demande aujourd'hui finalement à ceux qui sont déjà fragiles de continuer de se serrer la ceinture et on pense que il faut vraiment être vigilant et je pense que les événements qui se sont passés aussi avec l'expression autour des ronds-points le montrent. Il y a un ras-le-bol dont il faut pouvoir tenir compte et faire en sorte que on ne traduise pas ces différentes menaces qui pèsent contre les plus fragiles par des coupes drastiques et qu'effectivement on puisse redresser et faire en sorte d'éviter que les inégalités ne s'aggravent.
Malgré les ambitions et la communication qui accompagne la politique gouvernementale, un premier bilan critique tendrait à dire que dans la réalité, les objectifs sont modestes, qu'il y a peu de moyens, ou en tout cas pas les moyens à la hauteur des ambitions, et que malgré les annonces, c'est assez peu porté par les politiques.
Une ambition forte qui est affichée, 23 territoires qui sont portés candidats pour appliquer de façon anticipée le plan logement d'abord, avec somme toute des moyens assez réduits. Et ce qu'on attend surtout des territoires, c'est qu'ils réorganisent autrement les moyens dont ils disposaient déjà. L'expression de Monsieur Tellier, le vice-président du conseil départemental du Pas-de-Calais, c'est de dire que l'État attend qu'on fasse beaucoup, mais avec les moyens et les bras des autres. Donc c'est une première crainte, hein, puisque envisager un changement sans s'en prendre les moyens, c'est pas toujours se donner la possibilité de réussir. Et ce qu'on constate aussi depuis les territoires qui sont engagés dans la démarche, c'est que les objectifs chiffrés sont pas toujours affiché. On veut réduire le nombre de personnes sans domicile, mais on n'affiche pas forcément le rythme de réduction qu'on vise, ni le délai qu'on se donne pour ce faire. Et du coup, quand on s'engage dans une démarche sans se donner d'indicateurs ou d'objectifs très précis, on se donne pas toujours les moyens d'atteindre des étapes qui soient significatives.
J'ai une inquiétude par rapport à ce qui est en train de se passer sur le logement minier, avec notamment la situation à Maison et Cité. Il y a eu sur Maison et Cité une opération très grave qui s'est mise en place à l'initiative du gouvernement au nom de la lutte contre les passoires thermiques, mais où on voit l'introduction d'une société privée, même si c'est derrière la Caisse des dépôts et consignations, qui vient rentrer en tout cas dans la direction du conseil de surveillance et de l'administration de Maisons et Cités. Et ce que je crains beaucoup, c'est que cette opération-là ne soit pas une opération de rénovation thermique, mais soit surtout une opération qui va se traduire par la privatisation en masse de notre logement minier.
Une autre démarche critique, ce serait d'analyser le plan logement d'abord, en regard d'autres lois, comme par exemple la loi Elan, qui a été votée l'année dernière, qui fait notamment peser des menaces sur les logements sociaux, avec tout simplement la baisse des moyens liée à une austérité budgétaire assez généralisée.
Complètement. On remet en cause, en quelque sorte, le modèle de solidarité nationale qui avait été construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où la volonté de produire ensemble des logements sociaux faisait que cet effort de la production d'un parc de logements sociaux était réparti sur l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, on constate qu'après avoir diminué, voire complètement supprimé les subventions directes à la construction de logements sociaux, on invite maintenant les organismes qui veulent continuer de construire à trouver de la trésorerie en vendant une partie de leurs logements sociaux. Donc c'est évidemment une aberration, parce que si on n'a pas assez de logements sociaux, en vendre, c'est à terme amputer ce patrimoine qui est déjà pas suffisant. Et d'autre part, c'est surtout faire supporter au secteur du logement social lui-même l'effort de poursuivre son développement. Et ça nous paraît être une alerte sur ce modèle français qui a eu beaucoup de qualités, puisqu'on a un parc social abordable qui permet de répondre à beaucoup de ménages. Et surtout, on voit aussi que nos voisins européens, qui se sont pas engagés de la même façon dans la production de logements sociaux, sont arrivés à une crise qui les a conduits, en Allemagne ou en Angleterre, à engager de nouveaux programmes d'investissement.
Et là, c'est une année record en 2018 sur le nombre d'expulsions, où on voit qu'en dépit d'un certain nombre de déclarations d'intention, c'est souvent difficile d'avoir des résultats concrets qui permettent de diminuer effectivement le nombre d'expulsions.
Autre question d'actualité, c'est celle des expulsions locatives, puisqu'on rappelle que la fin de la trêve hivernale est, comme chaque année, au 1er avril. En 2017, les expulsions locatives avaient atteint des chiffres records. Faut-il craindre un même scénario pour 2018-2019? Et aussi, est-ce qu'il y a une véritable volonté, voire des moyens pour pallier à ces expulsions?
Vous avez raison de signaler que, alors qu'on souhaite prévenir davantage les expulsions, on constate qu'elles continuent d'augmenter. C'est malheureusement le résultat d'écarts qui se creusent entre les ressources des ménages et le coût des logements. Les ressources des ménages augmentent beaucoup moins vite que n'augmentent les loyers et les charges des logements. Et donc, d'année en année, ça devient plus difficile pour les ménages les plus modestes de réussir à continuer de payer la quittance, le loyer et les charges de son logement. Dans le Pas-de-Calais, c'est plus de 3000 ménages qui ont été assignés au tribunal pour en vue de leur expulsion. Donc c'est un nombre important. Comment il faut faire, ben, si une des raisons c'est que le coût du logement augmente plus vite que celui des ressources, c'est de s'assurer que ben, les ressources puissent être indexé sur le coût de la vie, par exemple, ou voire plus, mais en tout cas être augmenté, mais surtout que les loyers n'explosent pas. Et donc, nous, on invite à réfléchir aux moyens d'encadrer les loyers pour éviter les aberrations ou des loyers qui augmentent trop à une remise en location, par exemple. Un autre moyen d'éviter l'expulsion, c'est que quand un problème arrive parce que la situation du ménage a changé, parce que le nombre de personnes qui paient le loyer est différent pour différents motifs ou des réalités ou des accidents de la vie, quand on repère qu'il y a une difficulté, c'est important de prendre le temps d'examiner la situation et de pouvoir, avec la famille, trouver des alternatives. Dans certains cas, ça peut être sur un problème temporaire de mettre en place des échelonnements de paiement. Dans d'autres cas, ça peut être de rechercher un logement plus adapté, moins cher, plus petit ou situé plus proche du travail ou du reste de la famille, par exemple.
Les chiffres, hein, on les rappelle et c'est souvent ce qui explique aussi la difficulté et la charge des départements du Nord et du Pas-de-Calais dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Quand il y a 296 000 ménages qui sont allocataires du RSA. Ça représente une part importante des dépenses. Le revenu médian, c'est 1582 € par ménage. C'est le plus faible des 13 nouvelles régions de France métropolitaine. Ça se traduit par 1 118 000 habitants de la région sur les 6 millions donc, d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le résultat d'un taux de chômage important, 11,3%, et encore ce taux il traduit pas les différences qui existent entre les différents départements. Hein, donc,
Alors là, tu as commencé à proposer quelques préconisations. Est-ce que au-delà du plan logement d'abord, pourrait y en avoir d'autres qui seraient urgentes et nécessaires ? Tu as parlé de l'encadrement des loyers, ça pourrait être de l'autre côté, du côté des bailleurs, un permis de louer, ce qu'on commence à entendre de plus en plus. On sait aussi qu'un meilleur accompagnement à la sortie des institutions, où là les chiffres de personnes qui se retrouvent sans domicile sont assez énormes et graves. Est-ce que tu pourrais proposer quelques alternatives au système d'accompagnement actuel ou quelques nouveautés ?
Effectivement, cette année, on s'est penché sur la situation des personnes qui sortaient d'institutions et comme tu viens de le dire, on constate qu'il y a une surreprésentation des personnes qui ont connu un passage à l'aide sociale à l'enfance ou en hôpital ou en prison parmi ceux qui n'ont pas de domicile. Donc, en repérant cette réalité, évidemment, on a envie de dire qu'il faut mieux préparer la sortie et éviter que les personnes se retrouvent sans solution au moment où elles quittent l'institution. Une des réalités, c'est que souvent les personnes qui sont chargées d'accompagner dans les institutions ont trop de dossiers et donc ça leur permet pas toujours de préparer la sortie de chacune des personnes. On pense qu'on pourrait développer des structures intermédiaires qui réservent du logement pour les sortants d'institutions ou dans d'autres cas qui préparent au retour dans un logement autonome. Dans la région, on présente l'exemple de la ferme de Moyen-Brie, c'est une ferme du mouvement Emmaüs qui accueille des gens qui terminent leur peine ou qui aménagent leur peine à la fin d'un séjour en prison et ça permet permet, en sortant de l'institution pénitentiaire, de rejoindre une communauté qui fait, c'est une ferme, donc de l'agriculture bio, et qui en même temps accompagne les personnes pour éviter qu'elles se retrouvent seules et sans domicile. Dans d'autres cas, c'est aussi des associations qui font le lien entre les personnes qui sortent par exemple de l'hôpital psychiatrique et des bailleurs qui peuvent mettre à disposition quelques logements ou en tout cas les réserver et le cas échéant faire le lien avec l'association pour faire en sorte que la vie de la personne dans le logement se passe le mieux possible. Ça fait partie des préconisations pour ceux qui risquent de se trouver sans domicile en ayant quitté une institution. Mais il y a évidemment d'autres choses. Hein. Une des grandes difficultés du logement dans la région, c'est que pour les ménages qui ont les ressources les plus limitées, le logement est trop cher ou pas situé au bon endroit. Donc il faut continuer de construire du logement, en construire là où les besoins existent et sont importants, mais surtout en faisant en sorte qu'on adapte la réponse logement à ce que les personnes peuvent investir ou prendre en charge de loyer. Ça veut dire que on fait du logement, mais il doit avoir une typologie qui convient, un loyer qui convient et qui peut par exemple permettre à quelqu'un qui est au minimum vieillesse ou avec un RSA de prendre en charge le loyer et d'assumer les charges. L'autre aspect, les autres réponses logement, elles se trouvent dans le parc privé, donc c'est important aussi de penser à cette ressource que sont les logements privés. Ça peut être une solution d'accompagner les bailleurs privés pour qu'ils puissent mettre en location des logements avec un loyer adapté, conventionné, qui va permettre de recevoir l'APL. Dans certains cas, ça peut être aussi une bonne solution de les aider à faire des travaux dans le logement, de leur faciliter l'accès aux aides. Et pour éviter aussi que des personnes fragiles se retrouvent dans de mauvaises situations, c'est important d'encadrer les pratiques. Et plusieurs agglomérations de la région ont décidé de mettre en place des autorisations préalables à la mise en location ou à la division, ce qu'on surnomme le permis de louer, qui est une façon de vérifier que le logement qui va être mis en location est aux normes et digne pour accueillir un locataire.